À 18h sur France Culture, le journal présenté par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La commémoration de la libération du camp d'Auschwitz prend un tour très politique à Jérusalem. Le Premier ministre israélien appelle tous les gouvernements à s'unir face à l'Iran pour éviter une autre Shoah. La Chine prend des mesures draconiennes pour limiter la propagation du coronavirus. Elle confine des villes entières, ferme la cité interdite et annule les festivités du Nouvel An. Nous joindrons Dominique André à Pékin. Information France Culture, la Cour de cassation donne raison à un auto-entrepreneur dont les droits à la retraite ont été minorés. Cet arrêt risque de coûter cher à l'État. Anne-Laure Chouin nous expliquera pourquoi. Et puis, illustration du mal-être des maires, la commune de Jablines en Seine-et-Marne a failli se retrouver sans candidat pour les prochaines municipales. Faute de successeur, c'est l'actuel maire qui va se dévouer. Rosalie Lafarge l'a rencontré. Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, accueille depuis ce matin des dirigeants du monde entier. Une cérémonie d'une ampleur inédite y est organisée à quelques jours du 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, où plus d'un million de juifs ont été assassinés. Frédéric Mettezo, vous avez suivi les commémorations.
Oui, Aurélie, barbarie, extermination, inhumanité, mais aussi espoir, responsabilité et vigilance. Voilà les mots pour évoquer la tragédie de la Shoah. Sous une grande tente chapiteau blanche, face au gradin, les intervenants se sont exprimés dans leur langue ou en anglais, en alternance avec les séquences musicales d'un orchestre classique ou les images d'archives poignantes des Juifs d'Europe déportés, des images en noir et blanc très très émouvantes.
Avec la présence d'une quarantaine de dirigeants, Frédéric, cette cérémonie a pris une tournure très politique et les grands dossiers du moment ont été abordés.
Je suis inquiet.
Les Américains et les Israéliens n'ont pas hésité à faire le parallèle entre la Shoah et la crise autour du nucléaire iranien. On écoute à présent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Je suis inquiet parce que nous devons encore attendre une action résolue contre le régime le plus antisémite qui existe sur la planète, un régime qui cherche ouvertement à développer des armes nucléaires pour anéantir l'unique le seul État juif.
Quant à Vladimir Poutine, il a glorifié le rôle de l'armée rouge et du peuple russe, mais sans jamais évoquer les autres pays vainqueurs. Il a multiplié les allusions aux collaborateurs, parfois polonais, parfois ukrainiens, des nazis.
La solution finale du peuple juif, et c'est une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des gens qui ont collaboré avec ce dessin. Il y avait à leur service non seulement des nazis, mais aussi des gens de divers pays d'Europe, dans les territoires de l'Union soviétique où ces meurtres ont été commis.
Et c'est Emmanuel Macron qui a mis en garde contre toute instrumentalisation de la Shoah.
L'Holocauste ne saurait être une histoire que nous pourrions manipuler ou utiliser ou revisiter. Nul n'a le droit de convoquer ces morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines.
Une mise en garde très claire et même osée à Yad Vashem.
Frédéric Mettezo, en direct de Jérusalem. Et comment enseigner la Shoah sans témoins? C'est la question qui sera abordée dans le temps du débat à 18h20. Limiter au maximum les risques de contamination, c'est la priorité pour la Chine confrontée à un virus qui a déjà contaminé 634 personnes et en a tué 17. Pékin a donc décidé d'annuler les festivités du Nouvel An, de confiner des dizaines de millions d'habitants et de fermer la cité interdite à Pékin, Dominique André.
Protéger la capitale, siège du gouvernement, du parti communiste et du corps diplomatique, vitrine du pays, est une priorité. Depuis le début de l'épidémie, Pékin est surveillé. Des mesures avaient déjà été prises pour désinfecter les gares, les aéroports et les centres commerciaux. Le port du masque est vivement recommandé à la population. De nouvelles mesures très restrictives sont annoncées ce soir. Les festivités traditionnelles du Nouvel An lunaire dans les grands parcs de la capitale qui rassemblent habituellement des millions de Pékinois sont annulées ce week-end. La cité interdite interdite et le Nid d'Oiseau, l'ancien stade des Jeux Olympiques de 2008, sont désormais fermés. Les élèves des écoles publiques de Pékin, qui sont en vacances ce soir pour une semaine, seront aussi suivis. Les parents doivent envoyer chaque jour des nouvelles de leurs enfants sur leur état de santé. Cette mobilisation générale contre le virus est aussi un combat que mène le président chinois. Xi Jinping est confronté à de nombreux défis depuis plusieurs mois, contestations à Hong Kong et à Taïwan, Xinjiang et les répercussions de la guerre commerciale avec les États-Unis sur la croissance économique du pays sont autant de sujets sensibles qui s'ajoutent à la crise sanitaire que doit gérer le régime chinois.
Et un premier cas de la maladie due au coronavirus a été diagnostiqué à Singapour. Isabel Dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, est formellement poursuivie par la justice angolaise. Une décision qui intervient 5 jours après la publication des Luanda Leaks, quelques 715 000 documents épluchés par un consortium de 36 médias internationaux, dont Le Monde et le New York Times. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Ces documents mettent en lumière les montages illégaux qui ont permis à Isabel Dos Santos, fille de l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, d'amasser une richesse faramineuse, Claude.
Oui, et pourtant on la croyait intouchable, hein, cette femme Aurélie, cette femme protégée par sa fortune et par les connexions politiques et économiques de son père, donc l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, 38 ans au pouvoir. Et voilà donc Isabel Dos Santos poursuivie par la justice, fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, la liste des délits dont elle est désormais formellement accusée est vraiment vertigineuse et elle pourrait expliquer l'origine de l'immense fortune de cette businesswoman de 46 ans à la tête d'un empire colossal entre l'Angola mais aussi le Portugal, plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs dans des secteurs aussi vastes que le diamant, la banque, l'immobilier, les télécoms. Selon le consortium de médias internationaux qui a enquêté sur ces documents, donc qui ont donc été publiés dimanche, Isabel Dos Santos aurait siphonné l'économie angolaise en détournant les fonds d'entreprises publiques qu'elle présidait par le biais de sociétés offshore, des malversations qui auraient été rendues possibles avec l'aide d'illustres cabinets de conseil qui auraient en fait facilité les évasions fiscales et aidé à mettre en place les sociétés écrans qui ont permis donc d'amasser cette fortune. Celle qu'on surnomme la princesse vit depuis le départ du pouvoir de son père il y a 3 ans entre Dubaï et Londres. C'est là où elle se trouve actuellement, là où elle a tweeté rageusement dimanche en commentant ses accusations. Ma fortune, elle est née avec mon caractère, mon intelligence et ma capacité de travail.
Et aujourd'hui, un banquier portugais visé par la justice angolaise dans le cadre de cette enquête a été retrouvé mort chez lui. Il s'agit vraisemblablement d'un suicide. Cet homme travaillait pour la banque Eurobic dont Isabel Dos Santos est l'actionnaire principal. La Cour internationale de justice prend la défense des Rohingyas face à l'État birman. L'instance judiciaire principale des Nations Unies impose à la Birmanie de prendre des mesures pour prévenir les exactions à l'encontre de la minorité musulmane. Des mesures qui concernent en particulier l'armée birmane. C'est un camouflet pour le gouvernement birman et en particulier pour Aung San Suu Kyi, même si la Cour ne va pas jusqu'à affirmer qu'il y a un génocide des Rohingyas, Pierre Benazet.
La Cour internationale de justice ne dit pas que les Rohingyas sont victimes d'un génocide, mais les juges estiment tout de même que la Convention de l'ONU de 1948 contre le crime de génocide a été violée, et surtout que les Rohingyas demeurent extrêmement vulnérables. La décision de la Cour est un désaveu pour Aung San Suu Kyi, qui s'était déplacée en personne à La Haye à l'ouverture de la procédure pour défendre son pays et affirmer que la Birmanie était un État souverain qui prenait lui-même les mesures judiciaires nécessaires. Pour le président de la Cour, la Birmanie doit prendre ses responsabilités. Abdul Kawi Youssouf.
Indépendamment de la situation à laquelle le gouvernement birman doit faire face dans l'état d'Arakan, y compris le fait qu'il peut y avoir un conflit interne en cours entre des groupes armés et l'armée birmane et que des mesures de sécurité sont en place, le contexte invoqué par la Birmanie ne contredit pas l'évaluation de la Cour qu'il existe un risque réel et imminent de dommages irréparables.
Les juges demandent donc à la Birmanie d'abord de prévenir toute destruction de preuves d'éventuels actes de génocide, ensuite d'empêcher l'armée et les paramilitaires de commettre des exactions, et enfin de fournir à la Cour internationale de justice et à l'ONU un rapport dans 4 mois, puis 2 fois par an, sur les mesures prises pour se conformer à cette décision. Une décision qui constitue une nouvelle étape dans la lutte contre l'impunité.
Une information France Culture. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui pourrait coûter des milliards d'euros à l'État. Cet arrêt confirme que la caisse de retraite qui s'occupe des auto-entrepreneurs a systématiquement minoré leurs droits à la retraite. Cette caisse, la CIPAV, est depuis plusieurs années dans le viseur de la Cour des comptes et du Défenseur des droits, car elle n'a jamais reconnu le statut particulier des auto-entrepreneurs, à savoir des droits à la retraite équivalents à ceux des autres indépendants. Cette décision de justice engage l'État, qui est censé compenser ce que la CIPAV va devoir débourser pour rembourser ses auto-entrepreneurs. Et comme il y a 400 000 auto-entrepreneurs, eh bien ça va se chiffrer en milliards d'euros, Anne Lorchouin.
Oui, cette décision rejette donc le pourvoi formé par la CIPAV, cette caisse de retraite. Vous l'avez dit, déjà visée par la Cour de comptes et le Défenseur des droits aussi pour sa gestion catastrophique. La CIPAV donc a calculé en moyenne 4 fois moins de points de retraite par an que ceux auxquels ces auto-entrepreneurs avaient droit. En l'occurrence, pour le cas jugé par la Cour de cassation, un auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires n'excédait pas les 26 000 euros par an, auquel on avait crédité 9 points de droit à la retraite au lieu de 36. La CIPAV devra donc augmenter d'autant la pension de cet auto-entrepreneur et pour ce faire, elle est fondée à se retourner vers l'État. Pourquoi ? Parce que l'État, en créant le statut d'auto-entrepreneur et pour le rendre attractif, a permis que ces travailleurs indépendants puissent cotiser sur une base minimale, tout en bénéficiant des mêmes droits à la retraite que les autres, en d'autres termes, des cotisations moindres, mais des droits à la retraite égaux.
Et pour permettre ce statut particulier, alors l'État était censé mettre au pot.
Oui, il devait payer pour compenser les pertes de la caisse de retraite, c'était prévu dans la loi, mais plutôt que de réclamer cette compensation, la CIPAV a minoré les droits. Dès lors que la justice lui demande de les réajuster, elle peut à nouveau réclamer la compensation prévue. Multipliée par le nombre d'auto-entrepreneurs potentiellement concernés, la note pourrait très vite grimper très haut, 1,6 milliard d'euros selon les calculs de la CIPAV, beaucoup plus selon d'autres calculs émanant plutôt des avocats des plaignants. Car cette décision de justice pourrait créer un appel d'air. D'autres procédures sont d'ailleurs en cours pour lesquelles cet arrêt de cassation va faire jurisprudence. Dans le contexte de la réforme des retraites, ça fait tâche. D'ailleurs, est-ce pour ne pas envenimer les débats que la Cour de cassation n'a pas fait publicité de cet arrêt ? On peut se le demander.
Anne-Laure Chouin et un article consacré à ce dossier est en ligne sur franceculture.fr. La réforme des retraites sera présentée demain en Conseil des ministres, mais les syndicats toujours opposés au projet de loi instaurant le futur régime par points poursuivent leur combat. Ils prévoient demain une nouvelle journée nationale de mobilisation. Ce sera la 7e du genre. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
La CGT assure que la mobilisation sera extrêmement forte demain. À quoi faut-il s'attendre ?
Alors du côté des transports, la grève reprend effectivement avec un peu plus de vigueur après 4 jours de pause relative. Mais ce ne sera pas une journée noire. À la SNCF, le trafic TGV et Ouigo est même normal. Du côté des TER, c'est plus compliqué, avec notamment un train sur deux en Occitanie et dans les Hauts-de-France. Et sur le réseau transilien, il faudra compter 6 trains sur 10. À la RATP, la direction annonce un trafic très perturbé sur les lignes de métro, mais aucune totalement fermée. Du côté du trafic aérien, des perturbations également à prévoir, alors qu'un syndicat de contrôleurs aériens a appelé à la grève. Alors ces derniers jours, d'autres secteurs avait pris le relais, blocage dans les ports, l'appel se termine demain soir. Perturbations aux abords de centrales nucléaires, sans conséquences sur la production d'électricité. Ou encore, tout à l'heure, manifestation devant la Bibliothèque nationale de France. La BNF qui a d'ailleurs décidé de fermer ses portes aujourd'hui. Ce soir, ce sont 3 centres d'incinération des déchets en Île-de-France qui devraient être mis à l'arrêt, et ce pour 4 jours. C'est en tout cas l'appel lancé par la CGT Énergie. Et puis, des rassemblements au flambeau sont organisés en ce moment et en soirée, un peu partout en France. 150 rassemblements sont annoncés. À Lille, la préfecture a toutefois interdit l'usage de torches pour des raisons de sécurité. L'intersyndicale, elle, se réunira demain matin à 8h pour décider de la suite. La CFE-CGC, le syndicat des cadres, vient d'annoncer qu'elle souhaitait faire une pause après la journée de demain, notamment pour ne pas trop perturber l'activité économique. En tout cas, cette réunion se tiendra avant même la manifestation parisienne qui démarrera exceptionnellement le matin à 11h pour coïncider avec la présentation du projet de loi en Conseil des ministres.
Une manifestation qui doit exceptionnellement s'achever place de la Concorde, et le préfet de police de Paris, Didier Lallement, lance un appel à la responsabilité pour éviter des incidents. Le mouvement social à Radio France dure depuis maintenant 52 jours. Cet après-midi, la présidente de l'entreprise a écrit aux salariés « Ce conflit est en train d'abîmer notre maison », écrit Sybille Veil, qui propose de suspendre le plan de départ volontaire et de le remplacer par une rupture conventionnelle collective. C'est un dispositif réclamé par plusieurs syndicats, Maxime Tellier. Est-ce que ça pourrait permettre de sortir de la crise ?
C'est le souhait de Sybille Veil, en tout cas, exprimé dans ce mail assez court envoyé à tous les salariés de Radio France. La présidente y écrit qu'il faut sortir de cette situation. Personne n'imagine qu'une grève qui dure ne finira pas par avoir des effets importants sur nos audiences, sur l'image de Radio France et sur la confiance du public, en plus de pertes de recettes. À la demande des syndicats, elle propose donc de remplacer le plan de départ volontaire qui prévoit en tout 299 suppressions de postes par une rupture conventionnelle collective, une RCC. Le texte d'accord a été envoyé aux syndicats et on comprend donc que la balle est dans leur camp.
Et que répondent donc les syndicats, sachant que la CGT mène toute seule la grève reconductible ?
Eh bien, la CGT n'est pas prête à arrêter la grève, m'a confié un membre du syndicat. Peu importe la forme juridique, il faut que la direction accepte de réduire les suppressions de postes et les économies. La direction espère surtout isoler la CGT et montrer au gouvernement qu'elle cherche une solution, me confie un autre délégué syndical. Pour cela, elle tend la main aux autres syndicats, car jusqu'à présent, le plan de départ volontaire n'était pas négociable dans ses modalités, alors qu'une rupture conventionnelle collective est négociable. Il faut l'accord d'une majorité de syndicats pour l'appliquer. Une RCC permet aussi plus facilement d'embaucher par la suite, d'après la direction, et d'ouvrir les départs à plus de salariés, alors que le plan de départ volontaire cible certains services ou certains métiers. Enfin, certains syndicats avaient prévenu qu'ils attaqueraient en justice un plan de départ s'il était déposé. La direction n'a donc pas beaucoup de possibilités. Après 52 jours de grève, il était temps d'avancer, ou en tout cas de le montrer.
Maxime Tellier. France Culture poursuit son tour de France en amont des élections municipales. Après Lyon, Rouen, Lille, Perpignan et Bordeaux, nous étions à Paris ce matin et à la mi-journée. Nous restons ce soir en Île-de-France avec le portrait de Jean-Michel Barat, maire sans étiquette de Jablines, un petit village de 700 habitants en Seine-et-Marne. À vrai dire, ce maire aimerait bien passer la main, mais il n'a pas trouvé de volontaire pour lui succéder, Rosalie Lafarge.
La mairie de Jablines, il y a déjà passé la moitié de sa vie.
Rendez-vous compte que maintenant je marie des filles dont j'ai marié la mère. Il y a de quoi sourire, franchement.
À 72 ans maintenant, Jean-Michel Barat se serait bien vu partir à la retraite.
C'est pas que je n'ai plus envie, c'est très passionnant, mais au bout de 36 ans, on se dit qu'on n'est plus trop dans le coup et qu'il faudrait qu'un jeune reprenne la place.
Et il a donc cherché un ou une volontaire pour le remplacer.
Je n'ai pas trouvé, non, j'ai cherché déjà sous l'ancien mandat, j'avais cherché.
Alors Jean-Michel Barat a eu une idée, il a passé une petite annonce dans le bulletin municipal.
Juin, c'est ça. Donc voilà. Donc là, je me dis carrément que je ne me représente pas. Puis j'expliquais que je pouvais aider une personne à être maire, je perds une petite période avec elle de 2-3 ans, même s'il le fallait, mais ça n'a pas suffi.
Il a bien eu quelques coups de téléphone.
Oui, bah alors, on va retirer 2-3 loufoques, du sud de la France, en disant est-ce qu'il y a un logement de fonction et une voiture de fonction. J'ai eu une personne qui voulait rouvrir un bar très vite, mais ça aurait été le meilleur client, donc. Mais de personne sérieuse, non, je n'ai pas eu.
Et s'il regrette de n'avoir eu personne de sérieux, il comprend tout de même pourquoi. Pourquoi Jean-Michel Barat ?
C'est que le maire, c'est le premier fusible, c'est le premier contact avec l'habitant. Les gens veulent qu'on soit disponible, je ne peux pas envoyer un adjoint quand il y a un problème, ils veulent absolument voir le maire, donc il faut être disponible tout le temps, c'est même la nuit quand il y a un problème la nuit, et vous ne pouvez pas imaginer, mais mon téléphone vraiment est branché 24 heures sur 24, je ne peux pas me permettre de le couper, je ne le ferai pas, mais on m'appelle la nuit parce qu'il y a une voiture suspecte de garer à tel endroit, parce qu'il y a un chien qui gueule, parce que c'est inimaginable, et il y a un moment où ça devient bon, maintenant je suis veuf et j'ai le temps, ça va bien, mais c'est invivable.
Et c'est invivable aujourd'hui, plus qu'avant, à en croire l'élu.
C'est l'état d'esprit qui a beaucoup changé, oui. Et il y a beaucoup moins de respect, c'est certain. Et puis les gens ont beaucoup changé, très exigeants, ils n'ont plus le temps. Donc il faut ça tout de suite. Et si le bus n'est pas là tout de suite, c'est de la faute du maire. Donc vous faites engueuler et je me fais engueuler beaucoup plus souvent que je n'ai félicitations. D'ailleurs, je n'en ai pas souvent. C'est vrai que c'est pas attractif. Hein. Moi, si vous voulez, ce qui m'attirait là-dedans, c'est que j'aimais beaucoup le contact humain, j'aimais beaucoup rendre service. Et ça, c'est presque perdu dans l'esprit des gens.
Pour autant, le maire de Jablines ne veut pas regretter.
J'ai plein de bons souvenirs, j'en ai plein des bons souvenirs.
Et même à 756 euros par mois, si c'était à refaire, il le referait.
Oh oui, entièrement. C'est du masochisme peut-être.
Du masochisme qui le pousse à y retourner en mars.
J'ai pas d'autre solution parce que s'il n'y a pas de maire, c'est monsieur le préfet qui va me demander de rester pendant un certain temps. Et après, c'est éventuellement une possibilité d'association avec une commune voisine. Enfin, plutôt de se faire manger par une commune voisine. Or, cette commune ici, moi j'y suis né, je tiens pas du tout à la voir dépérir. C'est pour ça que je ne pourrais pas laisser tomber de toute façon.
Mais il a déjà prévenu ses colistiers, cette élection c'est vraiment la dernière et il n'entend pas aller au bout du mandat. Il compte sur l'un des 5 nouveaux noms de la liste pour prendre la relève le plus rapidement possible.
Un portrait signé Rosalie Lafarge. La justice britannique va remettre Alexandre Djoury à la justice française. Alexandre Djoury, c'est un protagoniste clé de l'enquête sur le financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'homme d'affaires avait été arrêté en janvier 2018 à Londres en vertu de mandats d'arrêt européens émis par la justice française, notamment pour détruire détournement de fonds publics et corruption. L'Aude reste en vigilance rouge aux crues et inondations. Dans les Pyrénées-Orientales, alerte orange pour risque de crues et d'avalanches. Demain, lente amélioration, mais toujours de la pluie sur le sud-est. Sur la moitié ouest et le nord, le temps sera maussade. Dans l'est, des gelées fréquentes au lever du jour, mais du soleil en journée. Les températures minimales seront comprises entre moins 4 et plus 1 degré sur la moitié nord, entre 2 et 11 au sud. Les maximales atteindront 4 à 11 degrés sur la moitié nord, 10 à 15 au sud et jusqu'à 17 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.